Les décodeurs RTBF sur la première.
C'est devenu un casse-tête pour la plupart des médias. Comment gérer les commentaires des internautes? En cause, bien sûr, les insultes, les messages haineux, racistes, sexistes, homophobes qui sont devenus de plus en plus fréquents ces derniers mois. Alors, on pourra bien sûr souligner le malaise social qu'il révèle dans le droit fil des conclusions de l'enquête Noir-Jaune-Blues RTBF le soir. Mais en attendant, c'est un problème pratique pour les médias qui sont confrontés à une tâche qui prend du temps et de l'argent. Alors cette semaine, Roularta, qui édite notamment Le Vif et Trends Tendance, a annoncé sa décision de supprimer la possibilité de commenter les articles de ses publications. Les commentaires stop ou encore, c'est le sujet de ce débat. Voici nos invités que je salue et remercie. Muriel Anneau, secrétaire général du Conseil de déontologie journalistique, bonjour.
Bonjour.
Dorian Demeus, rédacteur en chef de lalibre.be, bonjour.
Bonjour.
Et Vincent Genot, rédacteur en chef adjoint Le Vif Knack, à qui je pose la première question dont je ne pense pas qu'elle va vous prendre de court. Pourquoi cette décision?
Donc, comme vous l'avez dit dans votre introduction, on a été submergé sur nos forums d'injures, de propos racistes, homophobes. Donc on a décidé tout simplement, après plusieurs tests de modération, de supprimer les commentaires, la possibilité de commenter nos articles.
Oui, parce que dans une première phase, vous aviez supprimé l'anonymat, c'est-à-dire la possibilité pour les internautes de prendre un pseudo, un nom d'emprunt. Ça n'a pas été suffisant?
Non, voilà. Il y a 3 ans, on a essayé effectivement de supprimer l'anonymat sur les sites. On s'est rendu compte que la tâche était impossible, les gens multipliaient les faux profils, donc on courait derrière, donc à un certain moment on s'est dit qu'on n'avait plus les moyens et que ça n'apportait pas une forte plus-value à nos sites, donc on a supprimé après 3 ans de tests.
Alors Dorian Demeus, la Libre a réagi, hein, vous avez relayé la position de vos confrères et vous vous dites en réflexion permanente sur cette question, c'est extrêmement prudent, hein, on dirait de la langue de bois politique. Qu'est-ce que vous voulez dire?
C'est tout à fait vrai, c'est pas que la langue de bois, c'est la réalité. On a changé de système de modération 3 fois en 5 ans. Aujourd'hui, le système qu'on a est un système externalisé, c'est une société spécialisée qui traite aussi des grands sites internet français et qui modère les commentaires a posteriori qui sont mis sur Facebook.
Donc d'abord, ils sont publiés et puis ensuite, ils sont éventuellement enlevés. C'est ça qu'on appelle a posteriori.
Absolument. Une exception près, c'est que des personnes qui ont été bannies, qu'elles soient bannies chez nous, au Soir, au Figaro ou ailleurs, elles sont automatiquement bannies chez nous aussi. Donc eux ne peuvent rien poser du tout. Et c'est l'avantage de pouvoir aussi travailler avec une société qui travaille avec de nombreux médias, c'est qu'on profite un peu de ce qui se passe et ce qui est dit par les mêmes utilisateurs ailleurs. Maintenant, on est en réflexion constante. Donc moi, je comprends très très bien la décision de Roularta. Je la regrette et je dis aussi que je trouve ça un peu triste parce que c'est la seule véritable plus-value que le web a par rapport à tous les autres médias. On peut ainsi permettre à des gens de réagir, d'interagir entre eux, de donner leur point de vue par rapport à un article, par rapport à une problématique. Et donc, c'est un peu liberté d'expression qui s'en va si on arrête. Et c'est une vraie différence par rapport à tous les autres médias.
Oui, ça, c'est un aspect, évidemment, que l'on va aborder tout à l'heure dans la suite de ce débat. Mais justement, est-ce que vous avez eu des réactions de lecteurs à cette possibilité qui leur est finalement supprimée, Vincent Genot?
Bien sûr, moi j'ai eu énormément de mails suite à cette décision. Alors je dirais que la grande majorité des mails étaient positifs. Je suis moi-même étonné, je m'attendais plutôt à autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a des lecteurs qui nous ont reproché effectivement de ne plus pouvoir s'exprimer. Donc là j'ai bien sûr répondu que de 1, ils étaient rentrés en contact avec moi par mail et que j'ai répondu à leur message. Deuxièmement, j'invite toujours les gens à, si jamais ils ont vraiment une plus-value sur un sujet, à soit de faire une opinion, une carte blanche. Et ça fonctionne très bien. Sur le site du Vif, on publie en moyenne 3 opinions par jour qui touchent un peu toutes les problématiques de la journée. Donc il y a toujours cette possibilité de réagir et d'intervenir sur nos sites.
Mais malgré ça, est-ce que cette décision, vous la ressentez comme un échec?
Tout à fait. Moi, je suis triste, je suis peiné. Mais j'étais tout aussi triste et peiné de lire ce que je lisais sur nos forums. Enfin, je veux dire, c'est atroce. Je ne comprends pas comment moralement les gens peuvent tomber aussi bas.
Muriel Anneau, vous êtes secrétaire général du Conseil de déontologie journalistique. C'est un problème qui ne date pas d'hier. Hein. Le CDJ, comme on l'appelle, s'est déjà penché sur cette question il y a des années même.
Donc en 2011, effectivement, le CDJ qui venait d'émerger, puisqu'il est né fin décembre 2009, s'est penché sur les forums ouverts sur les sites des médias et a proposé des recommandations dont une partie est contraignante. Au moment où cette recommandation est sortie, elle était déjà dépassée, puisque la plupart des commentaires ne se passaient plus sur les sites internet internet des médias, mais sur Facebook. Et donc, oui, la recommandation n'avait pas été prévue pour cela. Mais un principe reste, c'est que l'éditeur est responsable des commentaires qui sont produits par les internautes.
Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même préciser et souligner, c'est que même si les commentaires sont formulés par des internautes, par des personnes qui peuvent éventuellement être anonymes, inconnues des rédactions, les médias restent responsables de ce qui est publié sur leur
site. Tout à fait. Ce n'est pas un espace public ouvert, c'est un espace médiatique et qui est lié à l'information, lié au traitement de l'information. Et donc, ces commentaires interviennent dans le cadre de la responsabilité du média, comme autrefois le courrier des lecteurs intervenait sur la responsabilité éditoriale du média. Et donc, en fait, les questions qui se posent, c'est de les modérer. Et donc, les éditeurs ont une obligation qui n'est pas de résultat. C'est une obligation de moyens. Ils doivent se donner les moyens de faire en sorte que ces commentaires, les commentaires racistes, les commentaires injurieux, les commentaires incitant à la haine, à la violence, à la discrimination, n'apparaissent pas sur leur site. Alors, il peut arriver effectivement que lorsque le CDJ reçoit des plaintes sur ces questions-là, on conclut que les moyens ont été mis en œuvre, mais n'ont pas permis d'évacuer tous les commentaires, mais que le média a tenté de le faire, mais qu'il n'a pas pu. Et dans d'autres cas, on va conclure que les moyens mis en œuvre étaient insuffisants ou ne sont pas intervenus de manière dans un délai raisonnable par rapport à l'objectif qui était visé. Et à ce moment-là, l'objectif de moyens n'est pas atteint et donc le média reste responsable.
Alors, si on retourne aux origines, et vous y avez déjà fait allusion, Dorian, les commentaires, à l'époque, ça servait à enrichir les articles, pas à déverser sa haine. C'était l'époque où on parlait de journalisme collaboratif, où les citoyens étaient censés contribuer à enrichir les contenus par leur expérience, le savoir, leur réflexion. C'était un mythe, Vincent Genot. Je vous ai vu lever les yeux au ciel quand j'ai dit journalisme collaboratif. Je sais que ça fait très vintage.
Non, mais je n'ai jamais adhéré à cette idée. C'est un travail d'être journaliste. On est payé pour ça, on prend du temps et on vérifie tout. Je pense que les gens qui réagissent sur les sites, dans les commentaires, réagissent toujours de manière très à vif, très rapidement. Il n'y a aucune réflexion. Je n'ai jamais vu de réflexion, sérieusement. Ça fait déjà une quinzaine d'années que je travaille sur le web. Je n'ai encore rien vu de très, très, très probant à ce niveau-là. Donc moi, j'attends d'avoir effectivement le parfait système de modération. Mais je dois expliquer que sur le site de Knack, donc le pendant néerlandophone du Vif, on a testé une société extérieure pour modérer pendant 2 ans le site de Knack. Quand on modérait correctement le site de Knack, il n'y avait plus rien d'intéressant qui restait. Soit c'était votre article est très bien, soit votre article est très mauvais, mais c'est tout. Il n'y avait aucune plus-value pour continuer notre travail de journaliste.
Dorian Demeus, le journalisme collaboratif, rêve ou réalité? Pour poser une question un peu tarte à la crème.
Je pense qu'on se situe un tout petit peu entre les deux. Je n'ai pas le même tableau aussi noir que vous présentez là, ou sinon d'ailleurs on aurait fermé les commentaires depuis longtemps. Je pense que parfois il y a vraiment des réflexions intéressantes. Parfois il y a aussi de quoi s'alimenter en tant que journaliste, dire tiens, ça c'est une piste intéressante. C'est vrai qu'on ne parle pas assez de tel ou tel sujet ou de tel ou tel angle par rapport à une problématique. C'est vrai que parfois il y a des gens qui soulèvent une erreur, ça peut être une faute d'orthographe, mais ça peut être une erreur de fond. Et donc parfois ça nous pousse à dire aux journalistes, écoute, il faudrait peut-être revoir ta copie parce qu'il y a un tel qui dit ça. Et donc on se rend compte qu'il y a une chose qui a été peut-être mal expliquée ou qui n'a pas été complètement expliquée parce que les espaces qu'on a dans le journal sont limités. Donc moi je pense que de temps en temps il y a quand même des choses intéressantes et instructives, mais c'est rare, et là j'en conviens, c'est pas quelque chose qu'on retrouve tous les jours.
La position du CDJ actuellement, ça reste quand même, on continue à encourager les formules de collaboration et de dialogue avec le public.
Alors, c'est pas qu'on encourage. Le message qu'on fait passer auprès des médias, c'est leur responsabilité. Et donc, qu'on choisisse d'exercer cette responsabilité en supprimant les commentaires ou en les modérant, c'est un libre choix des rédactions. Donc ça, on n'intervient pas directement. Cela étant, d'un point de vue extérieur, si je me place sur un plan extérieur, je constate que dans les nouveaux modèles de presse que l'on trouve un peu partout, l'interactivité sert aussi à construire des échanges sur des nouveaux contenus de presse. Je pense à Nice Matin, où on va chercher les lecteurs en leur proposant des sujets potentiels et ils réagissent, ils votent pour décider quel sujet sera traité. Donc il y a un potentiel d'interactivité, il y a un côté négatif, mais d'un point de vue déontologique, la question de la modération relève de la responsabilité et de la liberté rédactionnelle.
Les commentaires des internautes à propos des articles de presse, faut-il les maintenir ou les supprimer? Nous en parlons avec Muriel Anneau, secrétaire général du Conseil de déontologie journalistique, Dorian Deméus, rédacteur en chef de la Libre.be, et Vincent Junot, rédacteur en chef adjoint, Levif.be, Knack.be.
Les décodeurs RTBF sur la première.
On a parlé de la possibilité d'enrichir éventuellement les articles, mais l'enrichissement, il peut aussi venir du clic. Et on sait que ces commentaires, ils sont générateurs de clics, et que le clic, c'est aussi parfois du fric, et c'est pas toujours chic, Vincent Genot.
Clairement, on sait que les gens viennent relire leurs commentaires, voir si on a réagi, donc ça génère effectivement du trafic sur les sites. Maintenant, je pense pas que ça soit non plus la grosse majorité des clics sur nos sites. Nous, on n'a aucun souci à perdre 10% de nos visiteurs en prenant cette décision. Voilà, c'est une décision réactionnelle. On estime que ça n'a rien à faire chez nous.
Dorian Deméus, ces articles, c'est un attrape-lecteur?
Non, je pense pas. Le fait d'être passé sur Facebook est peut-être là, il y a peut-être une volonté de la part des médias d'augmenter le nombre de trafic, parce qu'en fait, quand ils mettent un commentaire en dessous d'un article, automatiquement, cela se voit sur leur page Facebook, et donc ça peut créer une viralité plus importante. Mais je pense pas non plus que ça ait été fait pour ça, et je ne crois pas que le Vif va perdre 10% d'audience à cause de cette décision.
Alors cette décision, justement, elle intervient alors qu'il y a quelques semaines à peine, la presse.be, c'est l'alliance des médias d'information belges francophones qui regroupe essentiellement les quotidiens, je précise, Roulartin n'en fait pas partie, eh bien cette association annonçait la mise en place d'un système centralisé de modération avec l'aide financière du ministre des médias, Jean-Claude Marcourt. Écoutez ce que nous en disait à l'époque Daniel Van Wielick, le président de cette association.
Certains sites font de la modération a priori. Alors ça, c'est perçu comme de la censure. Mmh. Donc ça, on n'apprécie pas trop. Donc on fait de la modération a posteriori. Une des solutions exploitées par pas mal d'éditeurs, c'est de carrément couper les commentaires. Oui. Nous ne voulons pas, l'ensemble des éditeurs belges souhaitent maintenir ce débat démocratique, mais le cadrer. Et pour le cadrer, nous avons effectivement, ensemble, toute l'Alliance des médias, décidé de travailler avec un prestataire extérieur qui nous soulage dans cette tâche de modération.
Alors pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est totalement couronné de succès, cette initiative, Dorian Deméus.
Je ne sais pas, il faut donner un peu le temps, déjà parce qu'il faut définir ce qu'on a fait au départ. Hein. Il faut définir une charte bien particulière à chaque média. Mmh. Et puis alors, il y a une équipe qui est chargée de suivre les commentaires de votre média et donc d'adopter quelque part cette charte. Ça prend du temps. Et donc, de temps en temps, quand ils ont un doute par rapport à ce qu'on a décidé, eh ben, ils nous soumettent la question, est-ce que oui ou non ça peut passer? Et donc, petit à petit, se forme une forme d'expérience et une forme de tableau de contrôle pour savoir jusqu'où certains commentaires peuvent aller. Mais je pense qu'on n'aura jamais des commentaires extraordinaires. De là à le fermer, je pense que ce n'est pas ça qu'il faut faire.
Vincent Junot, est-ce que finalement, ce combat, il n'est pas un peu dépassé? Parce que vous y avez déjà fait allusion. Aujourd'hui, les commentaires, c'est surtout, ou en tout cas de plus en plus, sur les pages Facebook, en réaction sur Twitter. C'est là que de plus en plus de gens s'expriment.
Bien sûr. Chez nous, il y avait toujours, hein, je pense qu'on était à 7000 commentaires par semaine sur nos sites, donc ça reste quelque chose, ça reste du volume.
Mais sur vos pages Facebook, on peut toujours continuer à vous interpeller et à commenter.
On peut toujours interpeller sur nos pages Facebook, parce qu'on ne sait pas fermer les commentaires sur nos pages Facebook. En plus, quand quelqu'un partage un article depuis notre site sur Facebook, on ne sait pas du tout où ça part, donc on n'a pas le contrôle sur...
Mais donc ça veut dire quelque part que la décision que vous avez prise... Son impact est de moins en moins grand finalement, puisque les lieux de débat, de discussion et aussi d'insultes, hein, voire de délits, parce que parmi ces commentaires, il y en a qui sont franchement délictueux. C'est pas simplement dire tu es un connard, c'est aussi parfois des appels à la haine qui tombent sous le coup de la loi. C'est quand même un tout petit peu dépassé par les faits.
Alors je sais pas si c'est dépassé par les faits. En tous les cas, c'est très intéressant, c'est que ça suscite le commentaire, notamment à votre émission. Donc moi, je pense qu'il était temps de se poser la question, est-ce que la presse doit mettre de l'argent dans les commentaires en dessous de ces sites. Nous, on est là pour informer, on n'est pas là pour régler des pugilats dans un bac à sable.
Vous préférez mettre cet argent dans un travail journalistique que dans un travail de modération. Muriel Anneau ?
Juste préciser que la page Facebook du Média est aussi sous la responsabilité éditoriale au niveau commentaire. Et donc, de la même façon que pour les sites Internet, le Média est responsable des différents commentaires qui s'expriment. La seule différence, c'est que dans la jurisprudence du CDJ, on prévoit la modération a posteriori, parce que l'a priori n'est pas possible dans ce cas-là.
Il y a donc, a posteriori, ça veut dire que...
Ça a été publié.
Alors qu'a priori, c'est avant publication.
Exactement.
Je précise d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de le signaler, que la RTBF continue à permettre les commentaires des articles sur ces sites, mais la modération se fait en effet a priori, c'est-à-dire qu'il y a un filtrage avant publication.
Mais sur Facebook, la jurisprudence aussi reconnaît une plus grande liberté d'expression et donc on va plutôt regarder alors s'il y a incitation à la haine, incitation à la discrimination, c'est-à-dire des choses qui sont hors la loi. Et si le média ne met pas en place les moyens suffisants dans cet espace de débat qu'il organise, eh bien à ce moment-là, si les moyens ne sont pas mis en place, il peut y avoir faute déontologique.
Vincent Genot, votre mot de la fin, est-ce que vous voulez développer quand même, au-delà de cette décision que vous avez prise, des formes peut-être innovantes de dialogue avec vos lecteurs ?
Je risque de me faire lyncher, hein, mais j'ai l'impression que...